Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission des visites radiophoniques avec aujourd'hui Caroline Entrecq du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et Lucille Guiraud qui est architecte conseil. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Alors aujourd'hui entourée d'architectes, Caro.
Exactement.
On va aller où aujourd'hui?
Aujourd'hui on va faire des infidélités au pays d'arrêt d'histoire, on va sortir du Lot.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entrecq.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
35 minutes de route, on est arrivé où, Caro?
Donc là, on est à Marvejols. On est sur le territoire des Trucs. Qu'est-ce que sont ces trucs? Donc, ce sont vraiment ces sommets étroits, isolés, plus ou moins aplanis. Et donc, ça forme tout un ensemble paysager assez unique qui fait à peu près une quinzaine de kilomètres de diamètre qu'on va retrouver entre Marvejols, Montrodat, Bourg-sur-Collagne. On est entouré du Cos Sauveterre, des pentes de l'Aubrac, de la Margeride et du Cos de Changefège. Et on est ici à la confluence de la Collagne sur le site du coup de Marvejols.
On est donc à Marvejols, la ville royale, et on va parler d'un patrimoine atypique et méconnu, le patrimoine industriel, qui est très présent tout au long de la Collagne, que nous allons suivre en partie aujourd'hui.
Industriel, quelle industrie?
Alors en fait, c'est l'industrie de la laine, qui n'est pas forcément très connue, mais nous allons atterrir tout de suite dans la rue de la laine, où se tenait avant un marché tous les jours.
Voilà, donc là on est à Place Cordès, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc juste à côté de la place Henri Cordès, hein, c'est vraiment à couler. Oui, on voit la rue de la Laine.
Voilà, qui marque vraiment l'histoire de la ville de Marvejols, qui s'est vraiment développée et enrichie grâce au travail et au commerce de la laine. Comme le disait Lucille tout à l'heure, on est sur la rue où il y avait ici le marché de la laine. On peut retrouver de nombreux rez-de-chaussée commerciaux qui datent un petit peu du Moyen-Âge avec des échoppes. On va avancer un petit peu, on va en trouver. C'est une ouverture très arrondie sur laquelle on a d'un côté une porte, de l'autre un petit comptoir. Et c'est vraiment l'endroit au Moyen-Âge où on faisait commerce.
Voilà, au Moyen-Âge, on sait qu'à Langogne aussi, il y avait du travail de la laine, notamment avec la filature des calcaires. C'était au même moment?
Alors là, du coup, ça va être au même moment de l'autre patrimoine qu'on va te présenter tout à l'heure. Voilà. Mais c'est vrai que l'industrie de la laine est fortement marquée en Lozère par l'économie du mouton. Puisqu'en fait, il y avait à la fois une économie liée à la transhumance, avec les animaux du Midi qui venaient ici pâturer en été. Il y avait une économie du fumier de moutons qui permettait de rendre les territoires du Cos un peu plus fertiles. Et l'autre économie liée à la laine. Les deux sont complètement dissociés parce que les animaux qui venaient en pâturage depuis le Midi étaient tondus. Donc la laine qu'on va travailler ici, c'est la laine des agriculteurs locaux, mais aussi d'autres territoires qu'on importait.
Donc en fait, à l'époque, au début de ce fonctionnement des draps et de la laine, chaque famille s'occupait de sa laine et la tissait de manière disséminée en fait. Et petit à petit, ça s'est regroupé en fait dans différentes fabriques. Donc pour faire des draps de laine, il fallait plusieurs étapes importantes. Donc d'abord, on tond le mouton, bien sûr. Après, il fallait laver, donc généralement dans des ruisseaux, toute cette laine qui était assez grasse. Après, il fallait trier la longueur des fils. Après, la carder, donc là, c'est un peu la peigner, d'une certaine manière. Ça vient du chardon, en fait, qui était à la base apparemment utilisé. Après, on peigne, donc là, c'est plus fin que la carde. On file, donc là, c'est qu'on en fait des fils, bien sûr. Et après, le foulage ou foulonnage, où là, c'était l'idée de battre le drap pour le feutrer d'une certaine manière et assurer sa solidité. Donc voilà, petit à petit, tout ceci se structure. Et on arrive au magasin fabrique, qui est un petit peu plus loin que nos échoppes qu'on avait vues dans la rue de la Laine. Donc là, maintenant, on va s'approcher du magasin Fabrique.
Oui, parce que pour rebondir sur ce que disait Lucille, c'est vrai que bon, on avait une histoire de travail de la laine familiale. Mais par contre, toutes ces étapes de travail de la laine vont se retrouver disséminées partout dans la ville de Marvejols. Pour te donner un exemple, on comptait en 1875 environ 265 tisserands qui travaillaient dans la ville de Marvejols. En comparaison, à la même époque, on avait qu'une centaine à Mende. Il y a aussi d'autres régions dans lesquelles on avait ce patrimoine de tisserands. À Lyon, par exemple, on parle des canuts. Voilà, qui travaillait dans le centre-ville, dans des bâtiments, avec au rez-de-chaussée, justement, le magasin.
Alors là, on est devant l'actuelle librairie papeterie de Marvejols, qui était auparavant un magasin fabrique. Donc en fait, ce nom vient tout simplement du fait que le rez-de-chaussée était commercial. Donc c'est pour ça qu'on a des grandes arcades qui permettent d'ouvrir sur ce rez-de-chaussée. Et ensuite, aux étages, on avait deux étages où là, on fabriquait les draps de laine. Donc c'est pour ça qu'on a de grandes fenêtres pour l'époque qui permet en fait d'éclairer ces ateliers, vu qu'on n'avait pas l'électricité à l'époque. Et après, des greniers pour faire sécher les draps. Donc ce fonctionnement en étage, on va le retrouver plus tard dans ce patrimoine industriel.
Mais c'est vrai que voilà, on va vraiment passer en fait d'une culture plutôt familiale de la laine qui se déroulait dans des maisons au centre-ville avec vraiment une expansion industrielle du travail de la laine avec des bâtiments qui vont se délocaliser le long des cours d'eau qu'on va aller voir de ce pas.
Voilà, par ces nombreuses fenêtres, il n'y a pas spécialement de spécificité, du moins à l'extérieur, pour ce genre de bâtiment à l'époque?
Non, on peut lire voilà, ce rez-de-chaussée qui est vraiment très ouvert. Et par contre, à l'étage, on voit vraiment que... Donc là, on est sur un bâtiment de 1770. Donc on voit les ouvertures, si tu vois bien, les linteaux qui sont au-dessus des fenêtres, qui sont légèrement courbés. Donc ça, c'est très typique de la fin du 18e. Et on voit qu'il y a presque autant de vide que de plein. Donc on a vraiment quelque chose qui est très, très ouvert en comparaison des autres bâtiments de la rue de la laine et qui était plutôt moyenâgeux avec des plus petites ouvertures. Et c'était vraiment ce qu'on appelait le travail à la fenêtre. Donc la personne travaillait contre la fenêtre à filer la laine, quoi. Mais ce qu'on te propose, Ludo, c'est de prendre la voiture, parce qu'on va pas le faire à pied, pour aller se diriger le long des cours d'eau et on va aller voir l'usine de la Goutelle.
Allez, c'est parti. Voilà, on est arrivé à la Goutelle qui est implantée sur les bords du Coulagnier, c'est ça?
Exactement, donc là on a quitté le centre historique, on s'est rapproché des cours d'eau. On est à côté de la plaine de Mascoucelles qui est un endroit de jeu pour les Marvejolais. Et donc toute cette industrie lainière qu'on a vue au centre historique de Marvejols va se déplacer le long des cours d'eau pour utiliser justement la force hydraulique. Puisque du coup arrive le métier à tisser. Notamment la mule génie, c'est une machine à tisser qui est assez unique au monde et qui a révolutionné un peu l'industrie de la laine. Elle a été inventée par Samuel Crompton, un anglais, et il n'existe qu'un seul modèle encore visible aujourd'hui en France, et c'est à Langogne, à la filature des calquières. Celle des calquières date de 1825, donc c'est vraiment une machine très importante qui a besoin de la force motrice de l'eau pour fonctionner et qui oblige du coup à quitter les maisons du centre-ville pour des usines de plus grande dimension. Et là, on bascule sur vraiment l'industrie de la laine. Donc on va les implanter à l'emplacement d'anciens moulins à blé ou à foulon. Sur Marvejols, on en comptait à peu près 8. En 1740, il y avait celui de Pineton, de Lourdes, de la Triviale, de Pique-Trabuc, du Cime du Barry, du Colombé, des Quatre Rodes et de la Brugerette. À cette époque, il faut voir qu'on avait 500 000 ovins à laine qui étaient recensés dans le Gévaudan. Et la laine valait 5 fois plus cher que la viande. Donc on comprend tout l'intérêt économique de la laine. Et après la Révolution, donc, les manufactures elles vont fleurir le long de ces cours d'eau. La première manufacture à Marvejols apparaît en 1818 sur le site de Pinoton. Et puis ensuite, on aura au XXe siècle la laine qui va être remplacée petit à petit par le coton et les fibres synthétiques. L'économie un peu décroît à Marvejols et la dernière usine elle va mettre la clé sous la porte en 1869.
Alors, donc là, on est devant la Goutelle, qui est un des premiers, des premières usines construites au XIXe siècle. Qui ont à chaque fois été pensées de manière très fonctionnelle. On retrouve un petit peu le schéma qu'on a vu plus tôt pour le magasin fabrique, à part que là, on n'a pas de commerce au rez-de-chaussée, mais on a en fait un sous-sol qui permet de mettre tous les éléments techniques en rapport avec le système hydraulique et un arbre de transmission qui en fait traversait tous les étages pour permettre justement de faire fonctionner ces fameuses machines Mulgeny. Donc là, on a donc un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée où on mettait les cardeuses, l'étage, le R+1 et le R+2 qu'on voit devant nous, qui étaient pour mettre la Mulgeny et l'atelier de tissage. Et enfin, un double niveau de grenier pour faire toujours sécher les draps. Donc là, on a une série de lucarnes en bâtière qu'on retrouve sur la toiture qui est très pentue et très haute. C'est assez rare de voir une double travée, on va dire, de lucarnes de ce style. Comme on a vu avant, on a des fenêtres très larges parce qu'on travaille toujours à la fenêtre et toujours une proportion, on va dire, entre le vide et le plein qui est assez similaire.
Pour rebondir sur les lucarnes, ce qui a disparu et qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais qu'on espère sera de nouveau de retour, c'est qu'on avait sur ces lucarnes des volets en bois à claire-voie qui permettaient vraiment de gérer le séchage des draps qui se passaient dans ces combles. Si on se décale un petit peu, on va voir l'ensemble du site, puisque là on vous a présenté l'usine. Lucile vous a présenté l'usine principale. On a sur la gauche un premier petit bâtiment qui était la base de l'ancien moulin à Foulon qui avait sur cette route-là. Donc le site est constitué de trois bâtiments. La filature qui a été utilisée pour la laine a été construite de 1820 à 1840 à peu près. Voilà. Et on va s'avancer un petit peu et on va voir la trace d'un ancien bâtiment qui a été démoli.
Juste derrière.
Oui, ça va se mettre là.
Donc oui, on s'est décalé un peu et juste derrière, il n'y a pas beaucoup de traces du bâtiment restant, si ce n'est une grande cheminée.
Oui, une grande cheminée qui fait 34 mètres de haut. Il faut imaginer qu'elle était accolée au début à un bâtiment qui a été détruit. Elle était accolée à une chaudière et à une turbine qui était alimentée en partie par le béal du moulin. Si tu regardes contre le bâtiment de la Goutelle, on voit une arche en pierre. Donc c'est là qu'il y avait justement ce fameux béal. Et du coup, c'est une cheminée en pierre de taille, on le voit très bien. Il manque le chapiteau sur la partie haute. Et on avait ici un bâtiment plus récent, avec des toits en chêne, que Lucile vous développera tout à l'heure.
Donc voilà, ces fabriques, il va y en avoir un certain nombre qui vont fleurir le nom de la Coulagne, et, du Coulagnier et du Béal aussi qui traverse Marvejols. Ça va apporter en fait une nouvelle skyline, on pourrait dire, à cette ville, avec des nouveaux points de repère, vu qu'on a ces cheminées qui émergent subitement des bâtiments et qui sont bien sûr les symboles de l'économie lainière. Sachant qu'on a donc celle-là qui fait 34 mètres de haut, c'est une des plus hautes. Elles peuvent aller entre 12 et 35 mètres de haut. Ça dépend des usines.
Du coup, pour rebondir sur ce que disait Lucile, en fait, l'énergie hydraulique dont on voit ici la trace du Béal ne va plus suffire au milieu du XVIIIe siècle pour faire tourner toutes les machines liées à la laine. Et donc, on va installer des machines à vapeur, d'où la création de ces grandes cheminées.
Allez, on part de la Goutelle, on va où maintenant, Lucile ?
On va à la Trivale.
Trivale. Allons-y. Allez, on arrive à la Trivale, un nouveau patrimoine industriel que je ne connaissais pas, qui abrite la poste maintenant avec une belle cheminée en briques. On a changé de type de pierre.
Oui, on a changé juste pour la cheminée de type de pierre, mais on a voulu t'amener ici parce que c'est vraiment un site exceptionnel qui comprend un petit peu l'ensemble des typologies des bâtiments industriels. On a face à nous la maison des ouvriers. Sur notre gauche, le bâtiment usine verticale dont Lucille vous a fait la description tout à l'heure, et sur la droite, le modèle d'usine horizontale avec ses toits en shed, la fameuse cheminée en brique que tu as très bien remarqué, avec dessous son petit local de la chaufferie, et juste en face, sous le pont, le BL.
Et plus loin, il y a une seconde cheminée, mais cette fois-ci en pierre.
Oui, alors la cheminée que tu vois là-bas, c'est la cheminée de l'usine de Piquetrabuc. et tu devines le toit aussi de l'ancienne filature, avec ce toit en lanterneau. Tu vois, comme si on avait soulevé le toit du bâtiment. Donc c'est également un site du patrimoine industriel de Marvejols qu'on n'a pas eu le temps de développer, bien sûr, aujourd'hui. Alors ici, à la Trivale, en 1774, il y avait un moulin à Foulon. On a construit en 1820-1830 une filature avec un atelier de tissage et en 1840, la teinturerie. C'est la dernière usine de laine qui a fermé à Marvejols.
Sur la gauche, c'est aussi le modèle vertical, comme on a vu juste avant à la Goutelle, où on a deux niveaux en fait, où il y avait des ateliers avec des métiers à tisser. Et au-dessus, les séchoirs. Il y avait aussi une partie de boutique, en fait, dans cette partie-là. Et on voit qu'on a toujours de larges ouvertures sur les façades qui permettent de travailler à la fenêtre. Donc généralement, on a des bâtiments qui sont peu larges, justement pour faire bien pénétrer la lumière, et qui sont de grands plateaux vides avec uniquement une rangée de poteaux au centre pour permettre, voilà, de, structurellement, que le bâtiment tienne.
Voilà, aujourd'hui désaffecté. On voit que l'usine, ben, il y a une blanchisserie à la poste, mais les deux autres bâtiments dont tu nous parles, Lucille, là, paraissent désaffectés.
Alors en fait, il y a effectivement cette usine verticale qui est désaffectée, mais l'arrière, on pourrait penser que c'est désaffecté, mais en fait, ce sont toujours des logements.
Oui, pour repérer un peu nos auditeurs, on est juste derrière le collège de Marvejols. Et cette fameuse usine verticale dont parlait Lucille était anciennement la RAGT. Juste en face, donc on voit l'immeuble des ouvriers. Si tu regardes bien le toit, on voit les fameuses lucarnes à bâtière dont vous a parlé Lucille tout à l'heure. Et on voit bien, par contre, là, les panneaux de bois un petit peu ouverts qui servaient à ventiler les combles. Voilà. Et donc, l'accès à ce bâtiment est privé. Donc, au-delà du pont, on peut pas forcément y aller. Par contre, derrière, et on va pouvoir le voir en se décalant un petit peu, on a encore les grands jardins ouvriers qui sont utilisés aujourd'hui. Si on continue notre petit tour, donc sur la droite, cette grande cheminée en briques que tu as remarqué dès l'arrivée sur le site, Ludo. Donc, c'est une cheminée ronde adossée du coup au bâtiment de la machine à vapeur. Et c'est un petit peu le dernier modèle, le nec plus ultra de la, de la cheminée. Donc la cheminée de pic trabuc qu'on voit de l'autre côté est comme celle de la Goutelle en pierre, taillée. On voit ici qu'elle a conservé son chapiteau. Et en brique, c'est plus récent, on est plutôt à la fin du 19e. Pourquoi elle est ronde? Parce que ça permettait d'avoir un meilleur mouvement et un meilleur échappement des fumées, tout simplement. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que là on est vraiment dans le stéréotype, dans le logotype d'une usine. Usine dont Lucille, du coup, va vous présenter un peu l'architecture.
Avec beaucoup de toits.
Oui, voilà, beaucoup de toits. Donc là, en fait, c'est effectivement dans la seconde moitié du 19e siècle. Il y a une concurrence qui s'accentue fortement. Et avec les régions du Nord qui, elles aussi, travaillent la laine. Et il y a un effort de mécanisation qui doit être fait. Donc pour cela, on commence à avoir des machines de plus en plus importantes qu'on ne peut plus monter en étage, en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'usines horizontales, c'est parce qu'elles n'auront plus d'étage. On est uniquement sur un rez-de-chaussée. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On a un bâtiment très long qui peut faire, généralement sur ce type de forme, on a de 12 à 25 mètres de long pour une largeur de 12 à 18 mètres. Donc ça fait aussi des bâtiments très très larges, contrairement à avant où la lumière venait par les façades. Ici, effectivement, on a beaucoup de toitures car on fonctionne avec le principe des sheds. Donc ce sont des toits qu'on pourrait dire en zigzag où la face nord en fait est vitrée, ce qui permet d'apporter une lumière douce et constante pour travailler en dessous. Donc là, les façades sont uniquement ouvertes pour des portails par exemple, mais on n'a plus besoin de fenêtres comme on avait besoin avant. On est plutôt sur une sorte de boîte close qui serait uniquement éclairée par ces sortes de lanterneaux, on va dire, au niveau des sheds. Donc là, vu qu'on avait avant un système de transmission verticale, vu qu'on était en étage, on passe à quelque chose en horizontal. Et ce qui est très typique aussi de cette usine qui est à Marvejols et qu'on retrouve très rarement, alors on a quand même la cheminée avec un matériau manufacturé de l'époque, la brique, mais tout le reste du bâtiment est construit avec des matériaux locaux. on voit que les murs sont en pierre calcaire, comme la plupart des bâtiments d'ici, et les toitures sont en loze. Donc on a vraiment eu une alliance entre les savoir-faire et les matériaux locaux et le développement du progrès de la technique, on va dire. D'habitude, on utilisait plutôt des charpentes métalliques, par exemple. Chose qui, là, n'a pas été le cas. On a aussi utilisé des charpentes bois.
Et ça, ça s'explique parce qu'en Lozère, on a utilisé les savoir-faire locaux. Et donc, on ne maîtrisait pas la technique de la charpente métallique. Donc, on a fait tous ces sheds en charpente bois. Ce qui est assez remarquable et assez rare en France. Voilà, sur ce patrimoine industriel. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un modèle un peu standard, mais adapté au savoir-faire et au système constructif locaux. On a une architecture qui est assez sobre, sans aucune modénature, mais en même temps, elle a une esthétique très forte avec cette architecture très fonctionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir cette architecture un peu stéréotypée, hein, de notre petit dessin d'usine sur les feuilles, mais avec toute la culture locale du Gévaudan sur ce bâtiment-là.
Et du coup, c'est un patrimoine qui est protégé, Lucille ?
Et non, vraiment, c'est quelque chose qui est regrettable parce qu'elles ne sont absolument pas protégées alors qu'on a un patrimoine d'une très grande qualité, tant pour même ce qui a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Ce serait dommage que ça petit à petit se détériore, on va dire. Surtout que c'est en lien avec l'histoire de notre territoire.
Il y a beaucoup d'usines comme ça sur Marvejols parce qu'on ne les connaît pas forcément.
Alors on en compte 8 bâtiments industriels sur Marvejols, plus ou moins occupés. Par exemple, l'usine Pinoton a été transformée. Souvent, elles ont été remaniées. Elles servent maintenant pour le Clos du Nid. Le bâtiment de Piquetrabuc, dont je te parlais tout à l'heure, avait été remanié pour en faire une fonderie. Voilà, c'est vrai qu'ils ont été réutilisés. Remanié, on voit bien par exemple ici sur la blanchisserie qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures qui ont été créées. Voilà, c'est des bâtiments qu'on a su réutiliser en partie.
On a une actualité sur cette commune et par rapport à ce patrimoine industriel ?
Alors, pas mal d'actualités. Sur le site de la Goutelle que nous avons vu tout à l'heure, la mairie porte un projet de maison des associations pour justement reconvertir cette friche. Ça répond à un appel à projet notamment de la région sur les friches. Et donc on espère que ça verra le jour prochainement.
Après, au niveau du site de la Trivale, il y a un projet d'école en fait qui est en cours, donc voilà, qui est en réflexion, on va dire. Il y a aussi des visites en été qui sont organisées par l'association L'Os Vivante autour du patrimoine industriel de Marvejols.
À l'office de tourisme, on peut trouver aussi un dépliant qui permet de découvrir tout ce patrimoine industriel, puisqu'on n'a vu que 2 gros sites aujourd'hui, mais en suivant le Béal, on peut en retrouver beaucoup plus. Et ensuite, il y a aussi le petit musée des Deux Alberts, qui est dans le centre-ville de Marvejols, qui est ouvert d'avril à octobre, et qui raconte vraiment l'histoire de la ville et de cette industrie lainière.
Est-ce qu'on a une anecdote pour briller en société, Lucille ?
Mais oui, bien sûr. Ludo, connais-tu la technique anglaise pour dégraisser la laine ?
Alors, je n'en ai aucune idée. Je vais quand même tenter ma chance. Je ne sais pas, avec du pudding ?
Alors, c'est vrai que ça aurait pu tenter, mais ça, c'est un peu sucré, peut-être. Non, en fait, normalement, on utilisait du savon et de l'eau tiède, sachant que le savon est arrivé qu'au XVIIe siècle, XVIIIe, je ne sais plus, quelque chose comme ça, mais donc c'est quand même assez tardif. Mais la méthode anglaise utilisait donc toujours de l'eau tiède, à peu près 3/4, pour un quart d'urine fermentée, parce qu'en fait c'est de l'ammoniac, ce qui attaque la graisse. Donc c'était une très bonne technique pour permettre de la dégraisser.
Malin ces Anglais.
Malin.
Et on a même une deuxième, si tu veux, Ludo, pour toi. Assez d'actualité. Du coup, face à la baisse du pouvoir d'achat, à l'époque, le 6 avril 1875, les ouvriers de Marvejols forment une coalition. Ils quittent les ateliers et ils font la grève des tisserands qui va durer une quinzaine de jours. Et ce sera l'une des premières grèves constatées en Lozère.
Première grève constatée en Lozère ?
Ce serait la première grève constatée en Lozère.
Eh bien, merci beaucoup de ces informations, comme toujours intéressantes. La semaine prochaine, on va aller où ?
On t'emmène à la neige.
«
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.